VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Rwanda, la justice rwandaise a ordonné ce vendredi la libération sous caution de l'opposant Diane Rwigara, farouche critique du président Paul Kagame, en prison depuis plus d'un an, dans l'attente de son procès. Madame Rwigara, âgée de 37 ans, est poursuivie notamment pour incitation à l'insurrection et falsification de documents dans le cadre de sa tentative de participation à la présidentielle d'août 2018. Elle avait été arrêtée en même temps que sa mère. Trois juges ont estimé que l'accusation n'avait pas présenté des preuves crédibles justifiant le maintien des deux femmes en détention, d'où leur décision de les libérer immédiatement sous caution. Le procès des deux femmes doit reprendre en novembre. L'incitation à l'insurrection est passible d'une peine de 15 ans de prison et la falsification de documents ainsi que les pratiques sectaires de 7 ans de détention. L'opposition rwandaise se félicite de la décision des juges, notamment l'opposante Victoire Ngabire, qui a récemment bénéficié d'une grâce présidentielle après avoir purgé 4 ans de prison après une condamnation à 15 ans de détention pour trahison et déni du génocide. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi au médecin congolais Denis Mukwege et à Nadia Mourad, la Yazidi ex-esclave du groupe État islamique, qui se battent pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'armes de guerre. Le docteur Denis Mukwege et Nadia Mourad ont tous les deux risqué personnellement leur vie en luttant courageusement contre les crimes de guerre et en demandant justice pour les victimes, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Rice Anderson. Les Nations Unies ont salué ce qu'ils appellent une annonce fantastique qui aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits. Après le prix Nobel de la paix, le seul décerné à Oslo en Norvège, celui d'économie lundi à Stockholm en Suède marquera la fin de la saison des Nobel. Le prix de littérature a été reporté d'un an par l'Académie suédoise, embourbé dans un scandale d'agression sexuelle. Élection au Cameroun, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté dans un communiqué jeudi le Cameroun à tenir dimanche une élection présidentielle dans un contexte pacifique, crédible et inclusif. Le patron de l'ONU encourage tous les Camerounais à exercer leurs droits démocratiques et exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue avant, pendant et après les élections. Dimanche, 9 candidats, dont le président Paul Biya, s'affronteront dans les urnes pour briguer la présidence du pays dans un contexte de sécurité tendu avec les attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays et le conflit armé dans les régions anglophones. En République démocratique du Congo, mise en place d'une commission pour approfondir certaines questions techniques liées au processus électoral. C'est la principale recommandation issue de la rencontre jeudi à Kinshasa entre les candidats à la présidentielle du 23 décembre et le bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais les principaux candidats de l'opposition se disent insatisfaits des réponses de la CENI et avertissent que la Commission électorale devra porter seule la responsabilité d'un éventuel échec des élections. Plus de détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après près de 5 heures de discussion sur le processus électoral, les candidats présidents de la République à l'élection du 23 décembre 2018 et le bureau de la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place. Cela dans le but de concilier les impératifs techniques et de faire adhérer tout le monde au processus, mais aussi de faire en sorte que les élections se tiennent absolument à la date prévue. Mais à côté de cet accord, les principaux candidats de l'opposition ont, dans une déclaration commune, dit leur insatisfaction. Selon Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu et Jacquemain Chabani qui a représenté Félix Tshisekedi, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas convenablement répondu à leurs préoccupations, notamment sur l'usage ou non de la machine à voter et la radiation du fichier des électeurs sans empreinte digitale. Ses opposants considèrent d'ores et déjà la CENI comme responsable en cas de non-tenue des élections. En réaction, la CENI souligne que les considérations politiciennes et idéologiques ne doivent pas empiéter sur l'objectivité technique et invite les candidats candidat président à une deuxième rencontre ce mercredi 10 octobre 2018. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République du Congo, le gouvernement a lancé jeudi un appel à la communauté internationale pour l'aider à trouver les fonds nécessaires à la réinsertion de quelques 7500 ex-combattants ninja dans la région du Poule, proche de la capitale Brazzaville. Les ambassadeurs qui ont pris part à cette table ronde ont demandé aux autorités congolaises d'affiner leur démarche si elles tiennent vraiment à obtenir des financements. De Brazzaville, le point avec le correspondant de VOA Afrique, Arsène Séverin.
Le programme vise à réinsérer 7500 ex-combattants et 2500 autres personnes qui leur sont dépendantes. Pour cela, il faut plus de 8 milliards de francs CFA. Le gouvernement n'a pour l'heure trouvé que 2 milliards et il faut rechercher le reste auprès des partenaires. Pour l'ambassadeur de France, Bernard Cochéry, il faut encore plus de clarifications sur certains postes de dépenses pour éviter que l'argent ne finisse dans la poche des individus.
Également, il y a toujours ce sujet de vigilance. Quand on demande de l'argent aux partenaires pour financer un grand schéma, il faut toujours faire attention à ce que l'argent aille bien aux populations et non pas simplement aux experts. On va continuer à travailler avec les équipes des Nations Unies pour lever un certain nombre de points d'interrogation. En tout cas, moi je pense qu'il est essentiel pour le département du Poule que tous les efforts qui sont engagés, notamment par les entreprises, que tout cela puisse avancer parce que les populations ont besoin aussi de ces signaux.
Le représentant de l'Union européenne à cette table ronde a carrément souhaité que ce plaidoyer se poursuive à Bruxelles où le Congo pourrait rencontrer des gens plus généreux. Le conseiller politique de l'Union européenne, Claude Bochu.
Quand vous irez là-bas à Bruxelles, je pense qu'il faut vous équiper de ce tableau de bord, de cette matrice de l'ensemble des interventions que les chancelleries ou le système des Nations Unies pourraient appliquer dans le pool. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avons un certain nombre de choses qui sont dans le pipeline et pour l'instant qui ne sont pas encore connues du grand public. Donc, si vous recensez ce genre d'initiative, ça vous met dans une position bien meilleure pour argumenter.
Le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Éloge Landry Kolela, a rassuré ses partenaires que le Congo voulait cette fois-ci enrayer le phénomène des milices armées dans le Poule.
C'est une approche communautaire. C'est pas un cadeau qu'on va faire aux ex-combattants. Ce programme est complémentaire. Faut pas qu'on puisse éloigner, exclure ces jeunes-là, sinon ça sera une faute grave, on risque de retomber dans les travers du passé. Et nous pensons qu'il faut ces projets porteurs, il faut les occuper, ces jeunes-là, ensemble avec les populations, pour aller jusqu'au fond et régler définitivement cette crise du Poule. Hein, je suis moi-même fils de ce département et nous savons à peu près ce qu'il faudra faire.
Le PNUD qui accompagne le gouvernement dans cette quête de fonds souligne que les bénéficiaires seront bien formés pour utiliser à bon escient leur argent. Le Congo s'apprête ainsi à mettre en œuvre son 8e programme DDR et aucun n'a jusque-là abouti dans le Poule. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le Sénat américain devrait aborder aujourd'hui l'avant-dernière étape de la confirmation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, qui assure être un magistrat impartial et indépendant après avoir été blanchi, selon les sénateurs républicains, des accusations d'abus sexuels le visant. Un vote de procédure pourrait être soumis au sénateur dans la matinée. Avant-dernière étape, avant un vote final en séance plénière au Sénat, peut-être le lendemain. La mise en blanche s'est dite confiante dans l'issue du scrutin. Abdourahmane Dia.
Un rapport du FBI sur les accusations d'agression sexuelle portées contre Brett Kavanaugh a conforté les républicains dans leur soutien au candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, a assuré le chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, qui souhaite que le vote final se tienne samedi. En revanche, la sénatrice démocrate Dianne Feinstein déclare que ce qui est notable avec ce rapport, ce n'est pas ce qui est dedans, mais ce qui n'y est pas, dénonçant une enquête incomplète. De son côté, la Maison-Blanche s'est montrée confiante dans un vote de confirmation rapide. L'exécutif a transmis dans la nuit de mercredi à jeudi au Sénat les résultats d'une enquête complémentaire sur Brett Kavanaugh, accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de comportements déplacés dans sa jeunesse. Plusieurs femmes ont manifesté hier à Washington contre la confirmation de Brett Kavanaugh.
Et pour terminer, la première dame des États-Unis, Melania Trump, est maintenant au Kenya. Troisième étape de sa tournée africaine en solo, consacrée essentiellement aux enfants. Cette tournée avait débuté mardi au Ghana. où Madame Trump est restée 2 jours avant de se rendre au Malawi. Merci de votre attention.